Les rendez-vous de l'information, Jean-Louis Péguillan.
Christophe Lachaise. Le bulletin d'information de la communauté des communes de Couserans-Pyrénées est sorti, tout comme celui de la ville de Saint-Girons, nous en avons déjà parlé. C'est déjà beaucoup plus gros, beaucoup plus complexe, beaucoup plus de salariés. Est-ce que c'est beaucoup plus difficile, Jean-Noël Vigneault, président de la communauté des communes, de gérer la Comcom que la ville de Saint-Girons, où c'est totalement différent?
Alors, donc, ce que je peux dire sur la communauté des communes, bon, d'abord, c'est une collectivité, effectivement, importante, hein, je le rappelle. Hein, elle regroupe 94 communes, il y a 119 délégués, nous sommes à plus de 300 salariés, donc il est évident que nous passons à une échelle supérieure. Est-ce que c'est plus compliqué à faire fonctionner? Ben, je crois que on est installé depuis 2017, donc on a quand même un recul important, à tel point que la Chambre régionale des comptes, d'ailleurs, s'est intéressée à ces premières années, ce qui est normal, hein, sur des structures comme la nôtre, c'est très régulièrement que la Chambre vient porter un peu son analyse. Bon, les conclusions, ça a été écrit dans la presse, hein, c'est plutôt des conclusions favorables, certes prudentes. Alors prudentes, moi je partage tout à fait, hein. Vous avez vu que la situation financière de la communauté de communes s'était fortement dégradée en 2020 et en 2021, essentiellement due à la crise Covid, puisque on a été amené à prendre des décisions qui s'imposaient à nous et qui ont créé beaucoup de dépenses. Et malheureusement, la collectivité, je parle de la communauté de communes, n'a pas eu de compensation. Donc ça a été plus d'un million de déficit dans le budget. Alors il a fallu essayer de passer le cap. On a réussi à le passer, puisque malgré tout, on a pu maintenir les investissements. La bonne nouvelle, même si les comptes administratifs seront votés dans quelques semaines, mais bon, pour avoir travaillé le compte administratif anticipé, c'est que dès 2022, on a réussi à redresser la situation. Donc, voilà, quand on a des situations de crise, ça peut très vite devenir compliqué. Et ça appelle des décisions, et c'est ce que nous avons pris en 2022, et je crois que le résultat sera constaté lors des votes des comptes administratifs. Et ça nous permet surtout de pouvoir s'inscrire dans l'avenir en essayant de maintenir notre plan pluriannuel d'investissement.
Sous quelle manière vous avez pu remonter la barque? Quelles ont été les décisions drastiques ou moindres qui ont permis donc de revenir à flot après les deux années de crise?
Ben, ce qu'on appelle un budget de rigueur, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment limité les dépenses au strict minimum. En termes de personnel, effectivement, lorsqu'il y a des absences de courte durée, il n'y a pas systématiquement de remplacement. On essaye de faire en sorte, avec les équipes en place, de pallier à ces manques donc de personnel. D'ailleurs, je dois saluer, hein, le travail des salariés de la communauté de communes qui sont à nos côtés, hein, pour arriver à redresser la barre et ensuite faire en sorte de maîtriser au quotidien les dépenses. Parfois, lorsque les dépenses ne sont pas urgentes, faire en sorte de les reporter. Et ces petits efforts qui sont faits au quotidien, ce pilotage resserré presque hebdomadaire, fait qu'à la fin, on arrive à redresser la situation. Et puis surtout, il faut le dire, 2022, pour nous, n'a pas été une année de crise forte par rapport au Covid, ce qui avait été le cas des deux années précédentes. Par contre, malheureusement, après vous avoir livré une note d'optimisme sur 2022, il est évident que malheureusement, on retombe dans de fortes inquiétudes pour le budget 2023, puisque maintenant, nous devons assumer une nouvelle crise, qui va être donc la crise énergétique adossée à l'inflation. Donc, je l'avais déjà dit, et je crois qu'on est beaucoup à le partager dans les communes, dans les communautés communes et d'autres collectivités, ces budgets 2023 vont être compliqués.
Alors, dans les réalisations de 2022, on a beaucoup parlé du centre de santé de Sainte-Croix. La région également a donné un éclairage particulier là-dessus. Ça fait partie un peu d'un maillage territorial important, ce centre de santé. Il y a eu également celui de Prates, Saint-Girons, même si c'est totalement différent, Saint-Girons qui a été réalisé. On a maintenant un maillage plus que convenable.
Depuis 2017, nous en sommes à notre troisième projets concernant la santé, puisqu'on a effectivement, vous l'avez rappelé, pu construire la maison de santé pluriprofessionnelle de Prates, la maison de santé pluriprofessionnelle de Saint-Girons et maintenant le centre de santé de Sainte-Croix. Alors la différence, vous voyez que le vocabulaire n'est pas tout à fait le même. Les maisons de santé, donc c'est les médecins libéraux qui les occupent, et le centre de santé, par contre, ce sont des médecins salariés. Donc il y a eu un montage effectivement avec la région Occitanie. On a pu installer donc, on va dire, une structure juridique qui permet donc de recruter directement les médecins, à charge à la communauté de communes de proposer les locaux. Donc là, Sainte-Croix faisait partie et le Volvestre faisait partie des territoires finalement dépourvus de ce type d'équipement. Donc très vite, on a ciblé un terrain et des bâtiments nous appartenant pour pouvoir installer d'une part provisoirement avec des Algéco, parce que les médecins étaient pressés de s'installer ces différentes équipes professionnelles. Et là, nous sommes en train de finaliser le permis de construire pour faire des installations définitives. Mais bon, je l'avais dit, je le reprécise, tout ça est à la charge de la communauté de communes. Je parle des installations, bien sûr. Et on va essayer de faire en sorte de mener ce projet en 2023 pour leur offrir, je le répète, des installations pérennes.
Je vous avais posé la question de savoir si cet exemple de centre de santé à Sainte-Croix pouvait se marier avec la maison de santé de Saint-Girons, notamment si on pouvait faire un mix. Vous m'avez dit que ce serait compliqué, mais pourquoi pas?
Alors effectivement, il y avait beaucoup de réticences, notamment de la part du Conseil de l'Ordre, de voir des médecins ayant des statuts différents travailler en maison de santé pluriprofessionnelle. Bon, je pense que la situation est telle au niveau national, avec la désertification médicale, qu'il faudra quand même avoir une certaine sagesse et apporter un peu de souplesse dans les prises de position. Et je crois que ça évolue plutôt favorablement. Vous imaginez que le maire de Saint-Girons serait quand même bien embêté de dire à un médecin qui voudrait s'installer à la maison de santé et qui souhaiterait être salarié, vous ne pouvez pas parce que votre conseiller de l'ordre s'y oppose. Bon, j'espère donc que ça évoluera dans le bon sens et qu'on pourra effectivement avoir des situations mixtes qui, pour finalement le patient, parce que c'est quand même lui qui est au centre du sujet, cette approche, on va dire, administrative l'importe peu. Lui, ce qu'il veut, c'est un médecin, être suivi, être soigné.
Alors justement, centre de santé, maison de santé, comme vous le dites, monsieur le président de la Comcom, peu importe pour le patient, lui, ce qu'il veut, au-delà de la structure, c'est être soigné. On sait que dans les semaines, voire les mois à venir, je prends un exemple de Saint-Girons, des médecins libéraux vont partir à la retraite, je dirais, vont à nouveau partir à la retraite parce que ce ne sont pas les premiers, avec une inquiétude justement pour les patients, pour les Saint-Gironnais, mais aussi les Couseranais, de voir ces médecins non remplacés. Est-ce que là, les élus, est-ce que là, les collectivités peuvent faire quelque chose? Alors, quand je dis quelque chose, style appel au peuple ou mobilisation, ça paraît quand même difficile.
Donc, c'est une situation qui, je le répète, partagée au niveau national. Les déserts médicaux sont partout. Donc c'est une situation très très complexe. Que peuvent faire les élus? Il ne reste pas, en tout cas, les bras croisés. Il y a un travail qui est fait, peut-être à un échelon plus important, notamment départemental, où on essaye de recevoir les internes, essayer de présenter de façon très attractive les établissements type maison de santé ou centre de santé qui sont sur les territoires. Et on peut espérer donc, à travers ces différentes démarches, capter l'intérêt de quelques-uns. Puis après, il y a des opportunités, des médecins qui souhaitent s'installer pour différentes raisons sur nos territoires, notamment en Couserans. Je ne veux pas aujourd'hui faire d'annonce définitive, puisque je reste prudent, mais je pense que Saint-Girons pourrait connaître dans les prochaines semaines et prochains mois l'installation de deux médecins.
Puisqu'on est sur la santé, le prolongement, c'est le CHAC, avec des rebondissements perpétuels. Alors donc on sait que vous êtes au conseil de surveillance et que les syndicats vous reprochent, pas vous en particulier, mais aux élus de ne pas faire le forcing suffisamment, de ne pas être assez présent pour défendre ce CHAC. Qu'est-ce que vous leur répondez?
C'est un point de vue. si vous appelez le directeur de l'ARS, je ne suis pas sûr qu'il vous dise que le président de la communauté de communes et les élus du Couserans ne sont pas suffisamment présents pour le solliciter très régulièrement, pour demander des rendez-vous très régulièrement. Donc nous restons en étroite, on va dire, liaison avec finalement les décideurs. Parce que nous souhaitons très régulièrement rappeler que cet hôpital est très structurant pour le territoire et que nous souhaitons qu'il soit pérenne. Il faut donner les moyens pour qu'il le soit, puisque la difficulté, là encore, c'est plus en termes de personnel qu'autre chose. Je ne parle pas de la situation financière, puisque là encore, c'est une situation généralisée, avec donc la façon dont fonctionnent les hôpitaux, la facturation à l'acte. Bon, on a mis les hôpitaux dans une situation financière compliquée, donc Saint-Girons ne fait pas partie des hôpitaux les plus mauvais de la classe. Ils sont en difficulté, il est en difficulté comme bien d'autres. Donc, c'est surtout le problème de personnel. Voilà, il faut vraiment, vraiment tout faire pour que le personnel puisse, là encore, venir s'installer en Couserans et travailler à l'hôpital. Donc voilà, ce que je réponds, c'est que les élus, donc, et notamment les élus qui sont impliqués dans le conseil de surveillance, mais également dans le contrat local de santé, où nous avons obtenu d'ailleurs de la part de l'ancien directeur de l'ARS un volet spécifique sur le CHAC, qui permet justement de renforcer le travail de coopération entre l'ARS et la communauté de communes. Voilà, c'est une veille quotidienne. Il y a bien sûr de temps en temps la température qui augmente. Nous le savons très vite dans le Couserans et on fait en sorte donc de bien s'assurer que les conditions sont réunies pour que cet hôpital continue à fonctionner, parce que c'est très nécessaire pour les Couseranaises et les Couseranais. Nous avons donc une situation, on le sait, qui est quand même une situation enclavée, et donc il faut assurer des soins, et notamment des urgences, dans le Couserans et à Saint-Girons. On ne peut pas, ou plutôt à Saint-Nizier, on ne peut pas se passer d'un tel équipement.
Alors santé, sociale, avec la mise en place de France Service Itinérance, ça aussi c'est nouveau, aller à la rencontre des gens.
Effectivement, là encore un projet souhaité par l'État, que nous avons bien sûr accompagné. Nous avions donc une France Service à Saint-Girons, qui d'ailleurs accueille beaucoup d'administrés. Et le souhait était, là encore, dans ce fameux maillage dont vous parliez tout à l'heure, de pouvoir intervenir sur les autres coins de la communauté de communes. Et donc maintenant, nous avons un France Service itinérant. Grâce à la collaboration des maires de certaines communes, on a pu dégager donc des moyens en termes de matériel et de locaux. Et donc, dans la semaine, et de façon échelonnée, avec un véhicule dédié, ils sont en proximité des administrés et ils répondent donc à différentes questions pour accompagner les administrés dans des démarches administratives qui ne sont pas toujours simples.
Alors on va passer à la culture, notamment, on ne va pas revenir sur l'union musicale, sur l'école de musique, on en a longuement parlé, mais simplement que la finalité de tout ça, c'est qu'il va se dessiner un centre culturel très prochainement. Ça fait partie aussi de vos projets de campagne. Donc, je ne sais pas si c'est dans les 2-3 ans que vous projetez éventuellement de construire.
Donc, le phasage est le suivant, c'est 2023, on poursuit les études. Donc, je rappelle, c'est un projet 3 années. Bon, d'abord, on va reparler de l'école de musique, puisque dans ce projet, il y a effectivement, et j'ai envie de dire, enfin, la construction d'une structure dédiée à cet enseignement musical pour les jeunes du Couserans. Ensuite, nous avons une salle de spectacle donc, qui est dimensionnée à 300 places et qui est déjà inscrite dans le contrat plan État-Région, donc qui est déjà repéré au niveau régional comme étant un projet à soutenir, notamment financièrement. Et enfin, le dernier projet, c'est le projet donc, du cinéma modernisé avec 3 salles. Et là, on est encore dans une dynamique et dans l'actualité, puisque nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt ayant pour objectif de recruter le futur gestionnaire de ce cinéma, puisque ce n'est pas la communauté de communes qui fera fonctionner ce cinéma. Ça sera...
Il y aura une délégation de services publics, en fait.
On verra la forme, ça peut être aussi notre contrat, on verra la forme, c'est en discussion là, avec les porteurs de projets. Donc ça sera dans les prochaines semaines que l'on pourra faire le choix du futur gestionnaire et qui nous accompagnera finalement pour finaliser le projet architectural et donc le lancement des travaux. J'ose espérer, bien sûr, si on se retrouve dans une situation, je parle aussi sur le plan financier, avec les subventions au rendez-vous, on peut espérer un lancement des travaux en 2024.
Pour une ouverture 2025 ?
Voilà, il faut compter à peu près un an de travaux, donc ça serait une ouverture avant la fin du mandat.
Et que deviendra la salle Max Linder ?
Dans la salle Max Linder, on a eu déjà l'occasion d'en discuter, hein. On a déjà des projets. D'abord, bon, c'est une salle qui rend beaucoup de services. Bien sûr, elle est dédiée principalement au cinéma, et c'est une bonne chose. Et par contre, il y a beaucoup d'utilisation annexe, hein, pour les associations, pour les différentes réunions d'organismes. On a un projet aussi de culturel sur les microfolies, qui pourrait peut-être trouver sa place là, c'est pas définitif. Donc voilà, on est déjà en perspective de voir le devenir de cette salle qui, je n'en doute pas, aura une activité très importante.
Et elle peut aussi, elle l'est déjà, servir de salle de conférence de toute façon.
Absolument, absolument. C'est un des atouts de la ville et du territoire. Hein, lorsqu'il y a des demandes de ce type, on peut mettre à disposition cette salle et elle est appréciée, tout à fait.
Alors, la communauté des communes a aussi la compétence économie. Alors, on va y passer assez vite, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Je rappelle qu'il y a quand même le bulletin d'information de la Comcom qui vient de sortir, qui est distribué dans les boîtes aux lettres, et là où vous pouvez vous arrêter sur tout ce qui vous intéresse. Les grandes lignes d'économie.
Donc, effectivement, c'est la compétence principale de la communauté de communes, donc... Le travail qui est fait actuellement, c'est de faire en sorte de mettre à disposition des zones pour pouvoir accueillir des porteurs de projets. Alors, je rappelle qu'on a plusieurs zones. Hein. On a une zone à la Bastide de Céroux, on a une zone à Sesco, on a une zone à l'Orp-Santarail, on a une zone à Prat-Banrepos, et je n'oublie pas non plus la zone de Lédard. J'entends souvent parler de friche de Lédard, mais il faut se rendre compte que sur Lédard, on a dépassé depuis un certain temps, pour ne pas dire un certain nombre d'années, le statut de friche, puisque nous avons des entreprises qui y sont installées, qui y travaillent. Nous avons aussi, hein, je ne l'oublie pas, ce projet d'installation agri-photovoltaïque, avec quand même à la clé, hein, une activité notamment de maraîchage et quelques emplois créés. Donc nous partons de ces outils qui existent sur le territoire pour aller chercher, voire accompagner des porteurs de projets. Vous avez pu, si vous l'avez lu, remarquer qu'on a quelques porteurs de projets qui, sur les différentes zones, se montrent intéressés pour s'installer. Et on continue aussi à essayer, notamment avec l'association Ariège Attractivité, à aller chercher donc des porteurs de projets extérieurs. On en avait un qui, malheureusement, était pratiquement sur une démarche aboutie d'installation à Prat, mais qui a dû subir de plein fouet la crise par rapport au Covid, et qui, malheureusement, aujourd'hui, se retrouve dans une situation financière très, très compliquée. Voilà, on essaye d'être au rendez-vous pour pouvoir installer, dès que cela se présente, des porteurs de projets qui, finalement, trouvent que le Couserans a quelques atouts, et donc ils sont amenés à se poser la question de venir s'installer.
Alors justement, dans ces projets, est-ce qu'il y en a qui se dessinent, des gros, des moyens, ou des projets plus courants, et à terme, finalement, ce sera aussi la dernière question, est-ce que les impôts vont être maintenus, augmentés, baissés, je ne pense pas. Alors, je vous vois sourire, mais vous savez que c'est la principale préoccupation, là aussi, de vos administrés. Et on les comprend, parce qu'ils ont quand même augmenté. Deux années, vous avez donné des explications, hein, d'ailleurs, pourquoi. Deux années en suivant, est-ce qu'on va avoir une troisième année d'augmentation ?
Donc là encore, on est dans le débat d'orientation budgétaire. Hein. Moi, de toute façon, mon principe, c'est toujours de faire en sorte de proposer un budget à l'équilibre lorsque c'est possible, en laissant la pression fiscale constante. Je rappelle que... On a mis en place, ça a été souligné par la Chambre d'ailleurs, hein, un pacte fiscal pendant trois années, hein, c'est allé jusqu'en 2020, où on a vu en fait une pression fiscale constante au niveau des administrés bien sûr, mais également les communes ont été protégées par rapport à ces variations de taux. Donc c'est un peu complexe, c'est un peu techno, mais on a vu les taux beaucoup bouger ces années-là, sans finalement que ça se traduise par une réelle augmentation de la pression fiscale. 2020 et 2021, par contre, nous ont contraints à devoir augmenter les impôts, et nous l'avons malheureusement regretté, mais il fallait le faire pour redresser la situation. J'ai dit qu'en 2022, donc, la situation était redressée. Donc actuellement, toujours pareil, hein, mon approche, c'est, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, de proposer un budget équilibré sans recourir à l'augmentation des taux.
Vous parlez de Pratt tout à l'heure, Monsieur le Président, avec la ZIR, mais à Pratt, il y a peut-être quelque chose qui se remplit plus rapidement que la ZIR, c'est la gendarmerie, puisque maintenant les gendarmes ont été transférés, c'est bien ça, d'une entrée de la commune à l'autre dans la nouvelle caserne.
Effectivement, encore une compétence que nous sommes amenés à exercer. Hein. Je rappelle qu'en 2017, trois projets sur la table. Construction d'une nouvelle gendarmerie à Prat-Bonrepos, construction d'une nouvelle gendarmerie à Saint-Girons et construction d'une nouvelle gendarmerie à la Bastide de Céroux. Donc, après un échange avec le colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l'Ariège, nous avions fait le choix de donner une priorité à la gendarmerie de Prat. Donc, on a pu lancer les travaux, ils sont terminés, et donc les gendarmes ont pu s'installer dans cette nouvelle caserne. Je crois que ça donne totalement satisfaction. La gendarmerie de Saint-Girons, également, dont on parle depuis tant d'années, là, c'était une approche un peu différente, puisque c'est un projet quand même qui peut représenter pas loin de 10 millions d'investissements. Je rappelle qu'en 2017, lorsque j'ai été élu, j'avais sur la table à peu près 25 millions d'investissements prévus, en cumulant tous les projets qui venaient des anciennes communautés de communes. Donc très vite, on a fait le constat qu'il fallait trouver des stratégies financières qui nous permettaient peut-être de dégager des moyens pour faire d'autres projets, notamment quelques projets nouveaux. Donc on a sollicité l'office HLM de l'Ariège, qui peut être amené parfois à construire ce genre d'équipement. Ils nous ont répondu favorablement, et donc finalement c'est eux qui vont porter cet investissement sur Saint-Girons. Où en est-on aujourd'hui? Le terrain concerné, c'est le terrain qui se trouve à Olotte, face à la caserne des pompiers. Ce terrain a été donc acheté, et le projet architectural est en train d'être travaillé, et on peut penser que les travaux pour la nouvelle gendarmerie de Saint-Girons vont démarrer en 2024. Donc nous allons enfin voir sortir de terre cette nouvelle gendarmerie, qui là aussi, vous le savez, est très attendue, puisque les gendarmes actuellement sont accueillis sur la structure qui se trouve pleine déchets, avec des locaux qui sont reconnus comme étant des locaux très anciens. Et là aussi, quand vous discutez avec les gendarmes, on vous dit que effectivement, plus on leur propose des locaux neufs ou récents, plus l'attractivité augmente. Bon, donc je pense que ce sera une excellente chose pour pouvoir donc faire vivre cette compagnie. Hein. C'est quand même une caserne importante. On a aussi, je le rappelle, accueilli le PSIG, qui trouvera toute sa place dans cette nouvelle gendarmerie. Donc voilà, les choses avancent. Et concernant la gendarmerie de la Bastide de Céroux, donc là c'est un projet également que nous allons porter. Nous en sommes au stade des allers et retours sur le projet architectural. Il fait partie, ce projet, des projets qu'on a été amené à faire glisser dans le temps, hein, sur le plan pluriannuel d'investissement, par rapport notamment à ces difficultés financières liées à la crise Covid dont je parlais tout à l'heure. Et donc on peut espérer qu'il sera réalisé d'ici la fin du mandat.
On parlait caserne, et en fait là vous allez me dire que c'est au département que revient la chose, mais je pense au centre de secours. On a eu récemment les cérémonies de la Sainte-Barbe, et je pense que parmi les intervenants, je pense que c'était le commandant de centre, c'est-à-dire le lieutenant Penaud, il a évoqué de nouvelles casernes en Ariège, et je pense qu'il a parlé bien sûr de sa propre paroisse, si j'ose dire, c'est-à-dire la caserne de Saint-Girons. Est-ce qu'on arriverait aussi un jour à avoir une caserne toute neuve, nouvelle, à Saint-Girons pour les sapeurs-pompiers?
Elle n'est pas si ancienne que ça, la caserne.
Ça a été évoqué, monsieur le maire.
Je vous laisse en débat, monsieur.
Non, mais ouais. je suis surpris. Voilà. Donc, on va avoir la réponse avec vous.
Ça a été évoqué à mi-mot, presque, mais ça a été évoqué. C'est une chose que j'ai retenue lors des interventions.
Elle ne me paraît pas en ruine, en tout cas.
Alors, effectivement, bon, d'abord, la gestion de toutes ces casernes au niveau départemental, hein, c'est important de le préciser, c'est au niveau du SDIS, donc c'est le conseil d'administration du SDIS qui gère tout cela. Et je le rappelle, parce que souvent c'est oublié, c'est un financement partagé entre la collectivité, le département, mais également les communautés de communes.
C'est pour ça que je vous pose la question.
J'ai bien compris. Je rappelle quand même, j'ai eu l'occasion de le rappeler à chaque fois que je suis amené à prendre la parole, pour notamment les Saintes-Barbes, je rappelle quand même que la collectivité Couserans-Pyrénées verse 1,4 million hein, par an de fonctionnement pour que justement on ait ces casernes qui puissent continuer à fonctionner, puisque c'est quand même une nécessité. Hein. C'est souvent les premiers qui sont sur place lorsqu'il y a malheureusement des accidents de la vie. Et donc, il faut bien sûr toujours les accompagner de façon à ce qu'ils aient les équipements les meilleurs possibles pour avoir des interventions de qualité. Donc là, actuellement, au niveau des nouvelles casernes, il y a une caserne qui, effectivement, va être construite à Varilhes. Voilà pourquoi il y avait forcément une intervention sur ces évolutions de structure. Concernant celle de Saint-Girons, très honnêtement, jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu de remontée me laissant penser qu'il y avait nécessité à la reconstruire. Je pense qu'effectivement, M. Péguian le disait tout à l'heure, elle est relativement moderne. Vous avez pu constater que les équipements aussi sont au rendez-vous. Je salue d'ailleurs, j'en profite pour saluer le travail des sapeurs-pompiers de Saint-Girons. Hein. C'est vrai que depuis que je suis maire, je travaille encore plus en collaboration avec eux. Ils répondent présents chaque fois que cela le nécessite et de façon très professionnelle. Donc je tiens à saluer leur engagement et je tiens d'ailleurs à féliciter les nombreux pompiers qui ont été décorés lors de cette Sainte-Barbe.
Voilà, nous arrivons au terme donc de cet entretien. Alors, il y a différents sujets que nous n'avons pu aborder, Monsieur le Président, mais je rappelle donc à nos auditeurs qu'ils peuvent les retrouver sur le bulletin d'information de la communauté des communes Couserans-Pyrénées qui vient de paraître et qu'ils vont retrouver dans leur boîte aux lettres. Merci, bonsoir.
Merci à vous.
Les rendez-vous de l'information, Jean-Louis Péguillan.
Christophe Lachet.